bienvenue au podcast Blackjack Earthmanship. Ici Nikki Robert et vous entrez maintenant dans mon univers de partage et de motivation. Soyez prêts pour un épisode inspirant. Bienvenue dans ce nouvel épisode et aujourd'hui on touche un sujet qui me tient particulièrement à cœur, le feeling. Et là je vais vous expliquer pourquoi c'est aussi important pour moi, déjà en commençant par quand est-ce qui est entré dans ma vie avec les chevaux, parce que oui, je m'en souviens du moment où ça m'est arrivé en pleine face et vous allez vite comprendre pourquoi je l'ai mémorisé. Alors, je vous fais une petite intro rapide. La première jument que j'ai eue, mon premier cheval, c'était une petite jument qui s'appelait Lady. Beaucoup de gens qui m'écoutent vont se souvenir d'elle. Je l'ai eue, moi, j'ai pas grandi dans le monde équestre du tout. Personne n'avait de chevaux dans ma famille. J'ai toujours eu une attirance incompréhensible et presque de la folie. J'étais folle des chevaux et pourtant j'en avais jamais touché, j'en avais jamais approché, déjà quand j'étais très très petite. Et à l'anniversaire d'une amie lors de ses 7 ans, donc je me souviens bien de son âge, elle nous avait invités chez elle et elle avait une écurie, donc on a pu faire des petites balades à poney. Et pour moi, ce jour-là a été un grand déclic et j'ai commencé à insister auprès de mes parents pour avoir un cheval. J'ai dû attendre jusqu'à l'âge de 11 ans. Et entre-temps, je prenais des cours dans une écurie. Des cours qui étaient plutôt western, éthologiques, dans ce genre-là. Mais c'était pas tout à fait mon genre. J'étais pas tout à fait bien avec la coach, avec comment ça se passait. Je les prenais, mais j'étais pas très bien. Je savais pas pourquoi. Moi, je voulais juste monter à cheval, puis vivre le trip avec l'animal, aimer l'animal, le sentir, tu sais, faire un partenariat. Puis dans mes cours, ben, il y a pas de place pour ça, tu sais. Tu brosses ton cheval, tu le selles, puis tu montes, puis t'as intérêt à te placer comme il faut. Puis c'est correct aussi, parce qu'il faut l'apprendre à un moment donné. Mais au fond de moi, ce que j'avais envie, c'est du contact avec l'animal. Et donc, j'insiste auprès de mes parents, encore et encore, et finalement, ma mère, qui avait mis sa passion de côté parce qu'elle avait eu des chevaux quand elle était jeune et de très mauvaises expériences, de grosses chutes, vraiment des chevaux très intenses, elle a pas eu d'aide à ce moment-là, donc elle a juste mis les chevaux de côté pour plusieurs dizaines d'années. À cause de moi et de mon insistance, en m'amenant à mes cours, ben elle a repris un peu ce goût-là et finalement, elle s'est décidée d'acheter une pouliche. Donc, des fois, quand on a des gros accidents, des gros traumas, c'est peut-être pas la meilleure idée, mais fallait qu'elle passe par là, puis ça a été une merveilleuse expérience avec sa jument. Mais bon, l'histoire, c'est pas ça. L'histoire, c'est qu'en achetant la pouliche, eh bien, pour ramener la jument à la ferme, on avait une ferme laitière, elle l'a toujours, eh bien, ça lui prenait un ami cheval. Donc, on m'a trouvé un cheval, et là, j'essayais, moi, je rêvais d'un grand gris pommelé ou d'un grand palomino pour faire du saut d'obstacle. À l'âge de 11 ans, c'est ça qui me faisait envie. Un poulain. Et finalement, on a été voir quelques poulains, mais ma mère était encore un peu mal à l'aise auprès des chevaux. Elle n'était pas super confiante. Puis l'écurie où on était nous encourageait pas non plus à aller vers de jeunes chevaux, ce qui est une bonne chose. Et donc, on finit par trouver une petite jument B, pas chère. Seule dans un champ, dans le fond d'un rang. Une petite jument B de 14 mains, de 17 ans, était un peu doudoune, était grosse, mais était petite. Et on est allé l'essayer au sol seulement. Je pense pas que je l'avais monté, mais je me souviens qu'on l'avait fait marcher. Puis moi, j'ai pris ce cheval-là, puis c'était comme si on avait toujours marché ensemble. Ça a été facile, ça a été... Là, j'étais très jeune, mais je me souviens comment tout était naturel. Il n'y avait rien à forcer. Et donc, on a décidé de prendre cette petite jument-là. Quand on l'a achetée, on l'a amenée à l'écurie où je prenais mes cours et où la pouliche de ma mère était en pension. Et à ce moment-là, dans l'écurie, il y avait une petite mode éthologique de petits parcours d'obstacles. Donc, il y avait plein d'obstacles dits épeurants, des ponts, des toiles en forme de tunnel. Il y avait vraiment beaucoup de jeux à faire. Puis moi, je prends mon cheval tout neuf que je viens juste d'acheter, que je connais pas du tout, puis on s'en va dans les obstacles. Puis ma mère, pendant ce temps-là, parlait avec la propriétaire de l'écurie, puis était bien concentrée dans leur discussion, jusqu'à ce qu'ils se rendent compte que moi, la petite fille de 11 ans, qui a pas trop d'expérience à part ses petits cours d'équitation, qui connaît pas le cheval plus qu'il faut, Je passe à travers tous les obstacles et à un moment, je passe sur un pont qui était assez haut quand même, il était assez important, puis le pont avait des côtés qui frottaient presque le ventre du cheval, donc il y avait lieu, ça aurait pu être un obstacle inquiétant pour les chevaux et je me suis fait chicaner assez de manière importante par la coach et ma maman, je suis pas certaine si elle m'avait chicané, mais je me souviens de la coach qui m'avait dit dans ces mots que j'étais inconsciente et que je faisais pas attention, que je connaissais pas ce cheval-là, qu'il aurait pu avoir du danger, puis que c'était insouciant ce que je faisais. Bref, ça avait bien renforcé mon goût de « j'en ai marre des cours, puis laissez-moi donc juste m'amuser avec mon cheval ». Parce qu'à ce moment-là, oui, il y a un peu d'inconscience, tu sais, j'avais pas d'expérience et tout, mais c'était tellement naturel, j'avais le feeling que cette jument-là me suivrait partout. Et je connaissais pas tout ce que je sais aujourd'hui du comportement du cheval, des signaux, du langage, mais je sentais que la jument était en totale confiance puis qu'elle m'aurait suivi n'importe où les yeux fermés. Et comme de fait, ça se passait très très bien. Donc ça a été la première expérience où je me fiais à 100% à mon feeling, puis je me suis même pas posé de question de « ça aurait pu mal se passer ». Moi, j'ai même pas pensé à ça une seconde. Je faisais ce qui me semblait naturel, j'apprenais à connaître ma jument, puis à aucun moment, je la mettais dans une... Elle était pas stressée, elle avait pas peur, je la confrontais à rien, juste elle me suivait à travers les obstacles. Mais selon ma coach, eh bien, c'était trop rapide, et je connaissais pas la jument, et elle aurait pu avoir des réactions exagérées et tout ça. Donc ça a été la première fois là, vraiment où je me suis dit « ok, j'ai mes ressentis, puis il y a ceux des autres ». J'avais 11 ans. Puis encore dernièrement, j'en parlais de cette expérience-là avec ma mère parce qu'elle, ça l'avait beaucoup marquée parce que elle me voyait aller, jeune fille de 11 ans, sans aucune peur, j'amenais mon cheval dans n'importe quoi puis ça se passait bien, alors qu'elle est encore craintive de ses expériences passées, ce qui est normal. Mais c'était comme un choc un peu de voir les deux extrêmes, puis en plus la coach qui me chicanait à cause que j'étais un peu trop confiante. Donc ça a été ma première. Et ensuite, j'ai eu beaucoup d'autres expériences de feeling là, avec Lady, ma petite jument, j'en ai fait des affaires. J'ai jamais autant tombé qu'avec ce cheval-là, mais pourquoi je tombais? Parce que j'adorais la montée accrue, donc sans selle. Je mettais un mort par contre parce qu'elle avait une bouche très très dure. Elle avait 17 ans puis elle avait vécu beaucoup de choses, mais très peu de dressage, disons. C'était un cheval qui avait tout vu, tout fait, mais qui n'avait pas été travaillé. Il n'avait pas été éduqué ou... Ouais, vous voyez ce que je veux dire. Donc, je mettais un mort quand même pour avoir un petit peu de direction. Et mes chutes, c'était quand on était à peine à la planche, donc au grand galop dans les champs en arrière de la ferme, accrue. Puis là, je vivais ma best life, le vent dans mes cheveux, l'odeur d'été à travers les rangs de maïs, c'était incroyable. Puis à un moment, ma jument se disait « bon, on est assez loin », elle foutait les breaks, elle faisait un U-turn incroyable. Cette jument aurait pu avoir de l'avenir dans les barils parce que ça tourne. Et moi, j'étais tout simplement éjectée, littéralement éjectée. Et elle retournait au gros galop, à la ferme, à la maison. Et moi, je marchais les 2 kilomètres restants. Donc, ça fait partie des expériences qui m'ont forgée. Mais encore une fois, c'était une histoire de feeling. Et je me suis jamais faite mal, même si, bon, quand même, les chutes, je les sentais. Mais je me suis jamais blessée. Puis cette jument-là m'a appris énormément. Mais c'était encore une histoire de feeling. Je me posais même pas la question. J'aimais pas tomber. Mais je me posais pas la question, mon Dieu, est-ce que c'est intelligent? Est-ce que c'est dangereux? Est-ce que ma jument pourrait avoir peur? Tu sais, la jument, quand elle virait de bord, elle n'avait pas peur. Elle avait développé cette habitude-là, peut-être même avant moi, qu'en faisant ça, elle désarçonnait son cavalier. Surtout pas de sel. Suivant cela, j'ai aussi envie de vous parler d'une autre expérience quand j'ai acheté Blackjack. Donc, l'histoire ne sera pas entièrement de quand est-ce que comment Jack est rentré dans ma vie. Peut-être un jour, je vous ferai un épisode là-dessus. Envoyez-moi un message si vous avez envie que je vous raconte l'histoire de comment les chevaux sont rentrés dans ma vie. C'est toutes des histoires intenses. Moi, j'ai pas ça des chevaux qui sont arrivés dans ma vie calmement, sans remous. Et donc, Jack, c'était mon premier poulain. Et quand j'ai décidé de l'acheter, en fait, j'ai voyagé avec un transporteur de moutons. Parce que j'étais rendue adulte, là, quand même. J'avais, 21, 22 ans, je sortais de l'école, du cégep, puis j'avais décidé que je voulais un poulain, puis je voulais pas le dire à mon entourage, parce que j'étais déjà tellement... Je me faisais déjà tellement juger pour ce que je faisais, puis Les gens me trouvaient pas sérieuse, puis ils disaient que j'allais rater, scraper ce poulain-là. Mais je veux pas aller dans cette histoire-là, je veux vraiment vous parler des histoires de feeling. Donc, j'ai voyagé avec ce transporteur de moutons-là à 7 heures de route pour aller dans une énorme encan de moutons cette journée-là. Donc, lui transportait un voyage de, je sais pas, 50, 60, 70 moutons. Puis on revenait, tant qu'à revenir vide, avec le poulain. Et l'ancienne propriétaire apportait le poulain à l'encan, on faisait l'échange à cet endroit-là. Puis quand elle a débarqué le poulain, moi je l'ai acheté, je l'ai payé, je l'avais pas vu, je l'avais pas essayé, entre guillemets. Juste, j'ai pris la longe, puis je me suis dit, c'est toi mon nouveau partenaire. Puis j'étais totalement sous le charme, j'avais un coup de cœur de fou, même en photo. Il était pas beau, par exemple, Blackjack, il était en sous-poids, il était un peu tout croche, il manquait de nutriments puis d'amour, là. Il était pas beau, mais je voyais déjà le potentiel puis la complicité qu'on aurait, je voyais déjà comme... C'était juste, encore une fois, hyper naturel. Puis ce jour-là, il fallait que j'attende que tous les moutons soient débarqués et que le transporteur aille tout nettoyer, sa remorque, et remis de la ribe. Bref, on a eu pour comme une heure, deux heures dans la cour de l'encan à travers les trucks qui rentrent et tout. Puis il y avait des enclos avec des vaches à bœuf, puis des moutons, il y avait plein de choses. Moi, je suis là, tout seul, tout nu, avec mon petit poulain que je connais pas, puis on se promène à travers les enclos, puis on se découvre, puis j'y fais sentir, puis je découvre sa personnalité. Je lui montre l'endroit, puis j'essaie de lui faire comprendre que je suis une bonne personne de référence. Bref, ce jour-là, le poulain, il avait même un peu peur des flaques d'eau, puis moi, j'ai profité de ce temps-là pour éduquer, présenter, puis me faire connaître. Puis c'était encore une fois une histoire de feeling, parce que j'aurais pu m'inquiéter de tout ce qu'il y avait là. J'aurais pu demander à l'encan, est-ce que je peux mettre le poulain dans un enclos, un box? Est-ce que je peux l'attacher quelque part, puis attendre, tu sais? J'aurais pu être dans bien des situations. J'aurais pu prendre plusieurs options, et j'avais juste envie de lui présenter un peu à l'image de qu'est-ce que j'ai fait avec Lady, ma première jument. Quand j'ai appris à la connaître, quand je l'ai amenée à l'écurie, ben je lui ai présenté les obstacles. Comme avec Jack, là, j'y présentais les enclos, puis tout ce qu'on voyait dans cette aire ouverte, parce qu'il n'y avait rien de fermé, pour apprendre à se connaître, puis se mettre en confiance. Puis c'était encore une histoire de feeling. C'était juste naturel. Pour moi, j'ai même pas calculé d'autres options. J'avais le feeling qu'il fallait que je lui présente tout ça pour qu'on apprenne à se connaître, puis que ça se passerait bien. Pourquoi je vous parle autant de feeling aujourd'hui, c'est que ça fait tellement partie de ma vie, puis je trouve qu'avec les chevaux, c'est un indispensable, et je suis certaine que vous avez déjà vécu dans votre vie des moments où vous avez pris des décisions par feeling, par impression, que vous deviez juste faire les choses comme ça, ça a été des grands moments que vous vous souvenez. Puis pour continuer avec mon idée de feeling, puis comment je l'utilise aujourd'hui, parce que avec Lady, c'était un peu la découverte de mon feeling, puis l'impression que j'ai versus ce que les autres ont comme impression ou comme limite, croyance, peu importe. Quand j'étais avec Jack, ça a été naturel, encore une fois, de suivre le feeling, de comment qu'il fallait que j'aborde la situation, comment le rassurer, comment le mettre en confiance, parce que ce poulain-là, quand même, après l'avoir fait découvrir une cour d'encan avec plein d'animaux de troc et de rip et d'odeur, ben je le remettais dans un énorme trailer pour qu'il passe 7 heures là-dedans avant d'arriver à minuit dans une écurie qu'il n'a jamais vue. Donc, il fallait quand même qu'on aille une bonne entente, là, tu sais. Il fallait qu'il y ait un certain niveau de confiance qui s'est fait, je vous l'ai dit, de manière très rapide et très naturelle. Aujourd'hui, comment le feeling fait partie de ma vie? Je pourrais vous donner des tonnes d'exemples, mais j'en ai un tout particulier que j'affectionne tellement, puis j'ai de la misère un petit peu à l'expliquer. J'essaie de le faire parce que dans mes cours en ligne, quand même, j'ai une formation, là, je vais vous parler de débourrage. J'ai un module de débourrage où je parle un peu, j'essaie d'expliquer tous les signes, tout ce qui emmène les étapes, mais il y a un feeling que vous seul, vous pouvez sentir qui est le moment où vous pouvez proposer au cheval qui vous porte. Donc, je vais habituer le poulain par un énorme processus d'éducation, d'habituation des équipements. Je veux pas que le cheval subisse quoi que ce soit. Je veux qu'il soit en accord avec ce que je lui propose, qu'il soit bien dans sa tête, dans son corps. Et c'est la même chose pour le moment où le cavalier va proposer de s'asseoir sur lui. Donc moi, personnellement, dans ma méthode, c'est pas une histoire de mettre la selle, tu le fais tourner en rond, il boque un peu, tu montes dans l'étrier, il boque, tu le fais courir, tu réessayes d'embarquer, il boque pendant que t'es dessus, c'est son premier cavalier, puis il y a quelqu'un qui pousse avec une longe. Tout ce que je viens de décrire me donne des frissons et c'est absolument pas ma manière de faire. Moi, je veux vraiment faire une différence aussi entre les équipements et la personne. J'aime aborder le débourrage sous deux axes. C'est pas un épisode sur le débourrage, j'essaie de me contrôler puis pas aller trop loin, mais j'arrive au sujet que je veux vraiment précisément vous parler. Et donc, j'ai une partie éducation-équipement et j'ai une partie feeling-émotionnel-partenariat. On peut dire ça comme ça. Et donc, pendant que le cheval est habitué au tapis-sel de temps en temps, puis parfois je vais même pas commencer par ça, je vais commencer par feeling-relation. Ça dépend du cheval que j'ai devant moi. Je vais lui proposer une forme de jeu de l'amitié, un peu, si on réfère à Parelli, mais l'idée, c'est que le cheval, si je veux qu'il accepte les tapis, les selles, les longes, les cordes sur son corps, tout ça, pourquoi ça serait pas la même chose avec moi? Sauf que je suis un objet animé. J'ai des émotions, des réflexes, j'ai un cœur qui bat, tout plein de choses que le cheval peut ressentir, donc c'est complètement différent de des objets inanimés, des objets de débourrage, bon, ce genre de choses. Donc pour moi, je fais vraiment une différence entre les deux. Puis je sais jamais quand est-ce que je vais monter sur le poulain. C'est pas jour 3, jour 10, jour 20. C'est pas une série d'étapes. C'est un feeling, c'est un moment où ce que le cheval est en pleine confiance, on a une bonne séance, on est bien. Puis à un moment donné, je vais juste travailler le montoir puis proposer au poulain de plus en plus de poids. Puis s'il me dit « non, c'est pas possible », ben je vais m'arrêter. Puis ça ira à la séance d'après ou dans 5 séances ou dans 10 séances. C'est pas grave. Mais je veux vraiment que le poulain accepte ça. Puis souvent, c'est extrêmement surprenant comment le cheval n'a pas l'air prêt dans le sens où il peut être encore super nerveux. Il y a plein de choses qu'il ne maîtrise pas encore comme exercice de base. Peut-être qu'il est un peu effrayé par la selle. Et pourtant, ça pourrait arriver que je lui propose que je sois en contact avec lui tranquillement jusqu'à être complètement assis sur lui. Le cheval est totalement détendu parce que je le guide à travers ces signaux puis les échanges qu'on a. Autant je le fais au sol quand je travaille avec des objets, tapis, selles, tout ça, mais quand je suis dessus, vraiment, c'est un autre rapport. Mais c'est toujours dans une idée de guider. Puis c'est vraiment une question de feeling. Donc, quand est-ce que je monte sur un poulain, j'ai même pas de réponse précise. C'est vraiment le moment où je le feel, où je le sens qu'il y a un truc entre nous deux, on est connectés, il se laisse influencer par mes émotions, parce que je lui propose qu'il arrive à se détendre. Il y a des choses à valider, oui, mais je vais toujours monter quand je le sens. Puis c'est pour ça qu'aujourd'hui, autant mes poulains au débourrage que Sonora, qui est ma petite jument anxieuse malusitanienne de rêve, qu'il y a un an est arrivée, était complètement folle, hystérique, intense, tous ces qualificatifs, et je me suis dit, je vois pas le jour où je vais embarquer là-dessus, parce qu'elle était très, très, très intense. Et pourtant, je crois que j'ai mis mes fesses dessus pour la première fois, comme 6 mois après, puis j'avais rien poussé. Ça s'est fait naturellement, juste, on était rendu là. Mais rendu là, pas parce qu'on a qualifié tous les exercices avant, mais parce que on était dans un moment où tout ce que je proposais autour de son corps était bien, était comme en accord, puis j'avais cette intuition qu'on était rendu à ça. Donc, le feeling a une importance capitale dans mon travail et je l'enseigne aux gens du mieux que je peux, avec des signaux, mais aussi à l'écoute d'eux-mêmes. Est-ce que parfois, notre feeling peut nous tromper? Alors, j'ai envie de dire oui, mais j'ai envie de dire, est-ce que c'était vraiment votre feeling? Parfois, on va prendre des décisions qui sont peut-être pas des bonnes, mais est-ce que c'était vraiment le feeling, l'intuition, ou c'était un peu l'ego? Parce que souvent, l'ego vient se mêler à ça, puis c'est un peu difficile de faire la différence. Ce qui peut amener, par exemple, à ce que, je me prends comme exemple, encore une fois, je décide que j'enlève la bride à mon cheval pendant une compétition de cowboy extrême. Et ça se passe pas du tout comme espéré. Mon cheval m'avait envoyé des signaux que c'était moyen, c'était pas clair, mais quand je suis rentrée dans le manège, il me l'avait dit. Et je me suis dit, ben voyons, Blackjack, toi puis moi, on fait bien pire que ça, on fait des randos de 3 heures avec aucun licol, aucune bride, rien en face, juste une cordelette, des fois même pas de cordelette. Ça, c'est correct, mais là, tu vas me dire qu'aujourd'hui, c'est pas correct. Bon, ah ouais, on le fait, puis c'est tout. Et ben, je me suis plantée, et ça a mal été. Et ça a été une grande leçon pour moi. Est-ce que c'était le feeling ou c'était l'ego? Probablement plus l'ego à ce moment-là. J'avais envie de montrer que j'étais capable de le faire. Mais mon cheval n'était pas d'accord. Pour diverses raisons de santé et bref, on n'était pas connectés à ce moment-là. Mais on s'est repris aujourd'hui, on travaille là-dessus. Puis même peu de temps après cet échec de compétition, disons-le comme ça, on a refait une autre compétition et j'ai fait le parcours avec un cheval qui était parfaitement disponible. Et à la fin, j'ai enlevé la bride et ça s'est fait naturellement. Et c'était magnifique parce que là, je l'avais le feeling. Donc, il faut vraiment être à l'écoute de est-ce que c'est vraiment... je le sens ou c'est mon ego. Jamais on va monter sur un poulain pas débourré par ego pour dire « regarde, je suis capable ». On a plutôt le feeling qu'on risque de se faire péter la gueule. Donc, il faut faire vraiment la différence entre les deux. Je pense qu'il faut être à l'écoute de nos doutes pour arriver à faire un peu la différence entre les deux. Si on a des doutes, t'as probablement raison. Parce que si c'est le bon moment puis tu le « feel », t'auras pas vraiment de doute, t'auras du mal à l'expliquer pis tu vas dire « j'ai juste l'impression qu'il faut que ça se passe comme ça. J'ai juste l'impression qu'on est prêt, on est rendu là. » Puis je veux pas aller du côté vraiment plus spirituel de la chose, même si on pourrait y aller, parce que on peut avoir une intuition hyper développée, on peut avoir l'impression de recevoir des messages de nos chevaux, puis c'est possible. Je suis pas là pour dire que ça existe pas. Même, j'en parle parfois. Mais restons plutôt dans le rationnel, dans le cadre de l'épisode. On peut quand même avoir... un feeling puis une intuition, ça c'est pas spirituel, c'est vraiment quelque chose qu'on a, qu'on y veuille ou pas, qu'on y croit ou pas. Donc, quand il y a présence de doute, t'as probablement raison. Réajuste, attends un peu, puis de toute façon, si vraiment il faut que ça arrive, ça va revenir, puis ça va revenir, puis tu vas le sentir encore. Comme Sonora, je reprends l'exemple, j'ai mis mes fesses dessus à l'automne, une fois, après je l'ai laissé tranquille pendant plusieurs mois, puis là je le sentais qu'il fallait qu'on le refasse, puis je sais pas pourquoi. J'arrive pas, au moment où on fait l'épisode maintenant, j'arrive pas à expliquer pourquoi avec Sonora c'est comme ça, que c'est comme « faut que tu le fasses ». Pourtant, je suis pas pressée, j'ai pas l'intention de la débourrer maintenant, mais j'ai l'impression qu'il faut qu'on aborde une nouvelle façon de débourrer, que j'explore une nouvelle manière d'approcher la montre avec elle, alors que j'ai quand même une méthode qui, selon moi, est absolument géniale, je suis très confortable dedans, puis je la maintiens avec un maïs qui semble parfaitement... confortable avec ça, mais avec Sonora, j'ai ce feeling que j'ai quelque chose à découvrir puis qu'il faut que j'ose le faire. Puis ça me revient comme idée encore et encore. Puis une fois que je suis dessus, tout est naturel puis ça a un côté un peu magique parce que c'est pas nécessairement logique. Tu t'es écouté toi, ton feeling, ton cheval, parce que tu l'observes, tu le sens et tu le connais. Ça a un goût différent, ça a une saveur de connexion qui est vraiment incroyable et particulière, propre aux gens qui arrivent à écouter leur feeling. Ainsi, c'est assez difficile d'être à l'écoute de cette petite voix, d'être attentif à notre intuition quand on n'a pas l'habitude de la nourrir ou de lui faire confiance. Mais si, à partir de la fin de cet épisode-là, tu as une petite pensée quand tu vas voir ton cheval, une petite ouverture aux idées, aux petites voix, au feeling que tu vas avoir, aux émotions, puis tu te dis « crime, j'ai l'impression qu'il faut que j'y propose de cette manière-là. Essaye-le! Regarde qu'est-ce que ça donne de te fier à ton feeling. » Des fois, les autres vont juger. Ça aura pas l'air de faire de sens. Puis ça se peut que si tes doutes se mêlent là-dedans, au début, c'est un peu dur de démystifier. C'est-tu mon ego? J'ai-tu des doutes? Est-ce que j'ai peur? C'est-tu un feeling? C'est-tu naturel? Mais plus tu joues là-dedans, plus tu te pratiques, plus tu les écoutes, plus que tu vas arriver à faire la différence entre les deux. Puis ça peut aller loin. Il y a des gens qui arrivent vraiment à bien séparer leurs doutes de ceux des autres, et ça, je pense que c'est un gros travail. Qu'est-ce qui t'appartient, qu'est-ce qui t'appartient pas? Ça, c'est mon petit côté développement personnel. Sur ce, j'espère que cet épisode vous aura un peu inspiré, vous aura amené le goût de... écoutez davantage votre feeling parce qu'il y a des milliers de bonnes méthodes, mais une méthode ne devrait pas être fermée et ne démontrer aucune ouverture. Plus tu découvres des méthodes, plus tu peux peaufiner la tienne. Puis écoute ton feeling. Tu peux voir un entraîneur trouver son travail extraordinaire, mais dans un contexte, dans un exercice X, tu te dis « ça fait aucun sens pour moi », t'as probablement raison. Façonne-le pour être bien. Moi, ma méthode de débourrage est un mélange de peut-être 10 méthodes, personnes ou idées, plus mon expérience au travers ça. Puis quand je le partage aux gens, ils vont faire la même chose. Ils vont peut-être l'essayer, tester, Puis ils vont peut-être dire « Moi, je suis pas à l'aise de faire ça en licol puis accru. Je vais plutôt le faire, mais avec la selle, puis avec un mort, ou dans un contexte autre, tu pourrais même vouloir le faire en randonnée. » Il y a des gens qui débourrent en randonnée. Vous le faites vraiment pour être bien. Puis si vous avez l'impression que votre cheval partage cette idée, cette connexion-là, faut vraiment que vous soyez à l'écoute de vous-même, de votre cheval. Je vous souhaite une super belle journée. Merci encore une fois d'avoir écouté un épisode de BGH. J'espère que ça vous a plu et on se retrouve rapidement pour le prochain!